Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manila qui est avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 21 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. La justice malienne condamne l'universitaire Étienne Fakaba Sissoko à 2 ans de prison pour ses critiques envers le pouvoir militaire. En RDC, réaction de maître Richard Mpinda après l'attaque contre la résidence de Vital Kamerhe.
Je n'y crois pas trop à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe parce que je pars du principe qu'il est question d'un coup d'État. Quand on dit coup d'État, on évoque le renversement des institutions.
En Mauritanie, 7 candidats retenus à la présidentielle, dont le sortant Ghazouani. Début des hommages pour Henri Conan Bédié en Côte d'Ivoire. Retour dans cette édition sur son legs politique.
La longévité se posait à la tête du PDCI a permis certaines stabilités aussi, parce que c'est un vieux parti qui a dommage, et donc le fait qu'il y ait des jeux.
Joe Biden condamne le mandat d'arrêt de la CPI contre des dirigeants israéliens, affirmant l'absence d'équivalence avec le Hamas. Par contre, la France soutient la CPI qui a requis des mandats contre des dirigeants d'Israël et du Hamas. L'Iran demande l'aide des États-Unis après le décès du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. La justice malienne a condamné lundi à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, Étienne Fakaba Sissoko, un universitaire et militant politique bien connu. Il est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles perturbant la paix publique. Cette condamnation intervient après la publication de son livre « Critique envers la communication du pouvoir militaire en place ». La sentence qui a provoqué de nombreuses réactions témoigne des tensions actuelles entre les autorités et les voix dissidentes dans le pays. Rosine Mounezer.
On n'est pas surpris, même si on avait dit qu'on avait confiance en la justice, a déclaré son avocat, maître Ibrahim Marouf Sako, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Étienne Fakaba Sissoko, économiste et professeur à l'université de Bamako, est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injures et diffusion de fausses nouvelles perturbant la paix publique. Détenu depuis fin mars, M. Sissoko est mis en cause pour la publication en 2023 de son livre intitulé « Propagande, agitation et harcèlement, la communication gouvernementale pendant la transition au Mali ». À l'audience le 6 mai, il a défendu l'intégrité scientifique de son livre comme reposant sur des faits et les contributions d'experts. Ancien conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta et ancien analyste de la mission de l'ONU MINUSMA, Étienne Sissoko avait déjà été écroué plusieurs mois en 2022. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité a aussi rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire. L'avocat a dit son intention de faire appel.
La Mauritanie se prépare pour une élection présidentielle prévue le 29 juin à Mauritanie. Le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, affrontera 6 autres candidats selon la liste définitive des candidats publiée lundi par le Conseil constitutionnel. Didi Diko.
Monsieur Ghazouani, 67 ans, à la tête du pays depuis 2019, est considéré comme le favori pour obtenir un second mandat. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz, autrefois allié de Monsieur Ghazouani. Tombé en disgrâce, Aziz a été condamné en décembre 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Il a toujours clamé son innocence, dénonçant un complot contre lui. La justice a permis à Aziz de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel la semaine dernière, mais son dossier a été rejeté pour insuffisance de parrainage requis. Parmi les autres candidats figure le leader du parti islamiste d'opposition, Tewassoul Ahmadi Ould Sid El Mokhtar, et le militant des droits humains Biram Ould Da Ould Abeid, classé deuxième lors de la présidentielle de 2019. Le scrutin du 29 juin est un moment clé pour la Mauritanie qui a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008. L'élection de 2019 a marqué la première transition pacifique entre 2 présidents élus, un signe encourageant pour la démocratie mauritanienne.
Au lendemain de la tentative de coup d'État que l'armée de la RDC dit avoir déjoué, le porte-parole du département d'État américain a cependant dit n'avoir aucune trace du fait que le chef présumé des putschistes, Christian Malanga, soit de nationalité américaine et assuré ne pas être en mesure de commenter le statut des autres Américains présumés. Nous sommes extrêmement préoccupés par les informations faisant état de l'implication de citoyens américains, a-t-il affirmé, en soulignant que les États-Unis coopéreraient dans toute la mesure du possible à l'enquête des autorités congolaises. Nombre de Congolais restent pour leur part très sceptiques face aux informations officielles. 9 Égyptiens accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée comparaissent à partir de ce mardi devant la justice grecque, alors que de nombreuses questions demeurent sur les responsabilités de ce drame. Également accusés d'appartenance à une organisation criminelle, ces hommes en détention provisoire depuis 11 mois en cours de prison à perpétuité, ce naufrage a fait plus de 80 morts et quelques 600 disparus dans la nuit du 13 au 14 juin 2023 au large de la Grèce.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a vivement critiqué la demande de mandat d'arrêt émise par le procureur de la Cour pénale internationale visant des dirigeants israéliens. Washington maintient qu'il n'y a aucune équivalence possible entre Israël et le Hamas. Mahamadou Oumfa.
La demande du procureur est scandaleuse, a affirmé le président américain dans un communiqué. Je vais être clair, quoi qu'insinue le procureur, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Il n'y en a aucune, a dit Joe Biden. Nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël contre les menaces à sa sécurité, a-t-il ajouté. Pour sa part, le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a déclaré que la démarche du magistrat était une honte. Il a estimé dans un communiqué que la demande du procureur pourrait compromettre les pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas est une organisation terroriste violente qui a perpétré le pire massacre des Juifs depuis l'Holocauste et qui retient encore des dizaines d'innocents en otage, y compris des Américains, a-t-il ajouté. Par ailleurs, la CPI n'a pas de juridiction sur Israël, a-t-il rappelé. Les États-Unis continueront à apporter leur soutien à la CPI en ce qui concerne les crimes commis en Ukraine, a souligné le chef du Pentagone, Lloyd Austin. Au 8e mois de la guerre, dans la bande de Gaza, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé lundi des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et son ministre de la Défense, ainsi que 3 dirigeants du Hamas pour crimes contre l'humanité présumés.
À propos de ces mandats d'arrêt, la France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations, a écrit dans un communiqué la diplomatie française dans la nuit de lundi à mardi. L'Afrique du Sud a salué la démarche du procureur de la CPI contre des responsables israéliens et du Hamas. L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, a déposé plusieurs recours ces derniers mois auprès de la Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire de l'ONU, accusant notamment Israël de génocide à Gaza. L'Iran sollicite l'aide des États-Unis après l'accident d'hélicoptère ayant coûté la vie au président Ebrahim Raisi, selon une déclaration du département d'État américain. Alexandrine Rologne.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le gouvernement iranien nous a demandé de l'aide, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, qui a précisé que les États-Unis n'étaient pas en mesure de le faire, en grande partie pour des raisons logistiques. Dans un commentaire, le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a lui déclaré que le président iranien était un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains. Le défunt président était responsable de violations atroces des droits de l'homme en Iran, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont néanmoins présenté officiellement leurs condoléances à l'Iran. Les messages de condoléances continuent à affluer de par le monde. Le pape François a adressé lundi ses condoléances au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, en assurant l'Iran de sa proximité spirituelle. Le pays a approuvé un calendrier électoral fixant l'élection présidentielle au 28 juin.
Des Iraniens en deuil rendent hommage ce mardi au président Ebrahim Raisi. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a décrété 5 jours de deuil et a chargé le vice-président Mohamed Mokhber, 68 ans, d'assumer les fonctions de président par intérim avant l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les 50 jours et a été fixée au 28 juin. Le principal négociateur nucléaire iranien, Ali Bagheri, a été nommé ministre des Affaires étrangères par intérim. La dépouille de Raïssi sera amenée jeudi matin dans la province du Khorasan du Sud, puis dans sa ville natale où il sera enterré jeudi soir. L'ultra-conservateur Raïssi, 63 ans, était considéré comme l'un des favoris pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans. L'aéroport international de la capitale haïtienne a rouvert lundi pour les vols commerciaux, 2 mois et demi après avoir dû fermer ses portes en raison de la violence des gangs. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nanit Talani.
La Banque mondiale promet de reprendre dans les jours à venir ses décaissements pour relancer d'importants projets au Niger interrompus après le putsch en 2023, car le pays a apuré ses dettes avec cette institution. Selon une source à Niamey, la Libye a commencé à exploiter le nouvel oléoduc de son champ pétrolier de North Hamada avec une capacité de transfert initiale de 2000 barils par jour, a déclaré la Société pétrolière nationale. Ce champ devrait augmenter sa capacité de transfert à 10 000 barils par jour en septembre pour la première phase de développement. Pour terminer, soutenu par une production robuste dans le secteur de l'agriculture, l'économie du Kenya a augmenté de 5,6% en 2023 par rapport à l'année précédente, a déclaré ce lundi le Bureau des statistiques. Le tourisme, un autre secteur clé, a également enregistré une croissance avec des arrivées de visiteurs dépassant le niveau annuel pré-pandémique de 2,35 millions pour atteindre 2,87 millions de visiteurs l'année dernière.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le sélectionneur de la RDC convoque 25 léopards pour les prochaines journées FIFA.
Oui, le coach Sébastien Desabre a appelé 25 joueurs pour les matchs contre le Sénégal le 6 juin prochain, puis le Togo 3 jours plus tard lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les nouveaux léopards concernés, le défenseur central Axel Tuenzebe, ce jeune joueur de 26 ans de la formation Ipswich Town est un ancien international espoir anglais. C'est aussi le cas de Noah Sadiki, passé par les U20 et qui est un milieu de terrain de 19 ans évoluant à l'US Saint-Gilloise. On note aussi la présence de Samuel Essendé, né en France et formé au PSG, et qui joue à Vizela en première division portugaise. Pour le reste, les anciens sont là, Chancel Mbemba, Kaloulou, Johan Wissa, entre autres. On relève aussi des absences comme celle de Cédric Bakambu et Silas Katompa, Mvoupa, forfait.
Yacouba, nous revenons sur cette performance exceptionnelle de Bayer Leverkusen en Bundesliga.
Vainqueur à domicile d'Augsbourg 2 buts à 1 pour la dernière journée du championnat, le Bayer Leverkusen a écrit samedi une page de l'histoire de la Bundesliga en devenant le premier club à terminer une saison invaincue après 34 matchs. Notre consultant sportif Amin Birouk revient sur les atouts de cette équipe allemande où évoluent des Africains comme le Burkinabé Edmond Tabsoba, l'Ivoirien Odilon Kossounou, les Nigériens Victor Boniface et Nathan Tella et le Marocain Amin Adli.
Créativité, de puissance physique, de sens de la percussion, de mental, parce que c'est une équipe qui n'a jamais abdiqué. Et puis, il faut aussi penser à ce monsieur qui s'appelle Xavi Alonso, qui a appris le football à la Real Sociedad, à Liverpool, au Real Madrid et au Bayern avec les plus grands maîtres. Aujourd'hui, il a sa propre philosophie, mais il a appris un peu partout. Et on sent que, je dirais, cet ADN, il a inculqué à ses joueurs. Le plus gros apothéose que pourrait avoir cette équipe de Leverkusen, qui n'avait jamais remporté le titre de champion d'Allemagne, c'est de réussir un triplé historique. Elle a déjà la première levée qui a été la Bundesliga, c'était la plus compliquée parce que la compétition de la régularité, c'est celle où il faut avoir du souffle, où il faut gérer les temps faibles, il faut exploiter les temps forts. Il y a maintenant la finale de coupe et surtout mercredi, la finale de l'Europa League. Et quelle finale face à l'une des équipes les plus séduisantes de Serie A, l'Atalanta Bergame. Si jamais Leverkusen réussit un triplé historique, il y aura donc un challenge que devront relever dès la saison prochaine les gros clubs de Bundesliga, à savoir le Borussia Dortmund finaliste de la Champions League, l'Allemagne peut réussir la passe de 2, et le Bayern Munich qui est un peu en retrait cette saison, mais qui va chercher à rebondir dès la saison prochaine.
Merci beaucoup Amin Birouk.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La résidence de Vital Kamerhe, l'un des principaux dirigeants de l'Union sacrée pour la nation, la coalition au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi, a été attaquée par des assaillants. L'armée de la RDC affirmait que ces assaillants tentaient de renverser le pouvoir. Au cours de l'attaque, deux gardes ont perdu la vie avant que les forces de sécurité n'abattent le chef du commando. Pour obtenir une réaction à cet événement, Eddy Issango a contacté à Kinshasa Maître Richard Mpinda, membre de la coalition et du parti au pouvoir, UPDS.
Il y a eu tentative de coup d'État parce que les hommes armés sont allés vers le bureau du président de la République. Ils sont allés, vous le dites vous-même, attaquer le ministre de la Défense. Il faille à ce que les services de sécurité puissent davantage être vigilants parce que, il faut se le dire, si vous observez très attentivement la situation de ce qui se passe à l'est de la République, que les FARDC se sont entrés d'aller de victoire en victoire. Et donc, nard de la guerre, s'il faut le dire ainsi, il faut cibler maintenant les institutions de la République, les neutraliser. Voilà pourquoi vous vous souviendrez qu'il y a eu à un moment donné des tensions entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, tout simplement parce que la présence des militaires rwandaises était signalée au bord du fleuve.
Hier, on a parlé de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Écoutez, vous savez, je n'y crois pas trop à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe, parce que je pars du principe qu'il est question d'un coup d'État. Quand on dit coup d'État, on évoque le renversement des institutions établies. Nous partons du principe que Vital Kamerhe n'est qu'un député ordinaire. Les neutraliser, lui, n'aurait pas d'impact sur le changement de l'ordre institutionnel établi en République démocratique du Congo. Et donc, je n'y crois pas.
Est-ce qu'il y avait un message derrière cela?
Oui, je pense qu'il y a un message, parce qu'à un moment donné, lorsque Christian, qui était le chef de ces assaillants-là, a dit « Nous avons fait notre part, il reste à ce que vous fassiez la vôtre ». Mais la question que nous devions nous poser, c'est de savoir, il s'adressait à qui? Et aussi, il faut se le dire,
il a dit où?
Il l'a dit dans les vidéos qui circulent, les vidéos de lui qui circulent. Mm-hmm. Au-delà de ça, vous conviendrez aussi avec moi que les assaillants sont allés vers le palais présidentiel. Et à mon entendement, à mon avis, ils ont voulu tout simplement avoir une idée du temps que ça prendrait pour que les forces armées ou les services de sécurité puissent réagir. Donc en soi, je dirais que c'est comme un ballon d'essai qu'on a fait pour voir comment est-ce que on allait réagir par rapport à ça pour éventuellement, organiser les choses d'une certaine manière.
Maître Richard Mpinda, membre de la coalition et du parti au pouvoir, l'UPDS.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les hommages ont débuté lundi à Abidjan pour rendre honneur à Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire, décédé le 1er août dernier. Ce sont deux semaines de commémoration qui ont débuté par la présentation de condoléances à sa famille et qui culmineront avec son inhumation le 1er juin. À la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, Bédié a laissé un héritage politique indéniable. Pour en parler, Yacouba Ouedraogo s'est entretenu avec Sylvain Namoya, fondateur du site d'information Côte d'Ivoire Today.
Bédié a été, à 26 ans déjà, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, député et maire de Daoko, sa ville natale. Il a été président de l'Assemblée nationale avant de finir président de la République de 1993 à 1999. Puis 1994 jusqu'au 1er août 2024, il était le président du PCI. C'est un homme politique averti qui a consacré véritablement sa vie au développement de la Côte d'Ivoire, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais aussi à la vie de son parti, le PCI, après le distributeur fondateur.
D'aucuns disent aussi qu'il a en quelque sorte monopolisé le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, quand il vivait bien sûr. Est-ce votre avis?
Sa longévité, se poser à la tête du PDCI, a permis certaines stabilités aussi.
D'aucuns disent qu'il s'est beaucoup comporté en faiseur du roi. Qu'est-ce que vous retenez sur ce plan-là?
Oui, Oui, c'est vrai que le PDCI a été pendant un certain temps aussi chez de roi, comme vous le dites, parce que lorsqu'il y a eu le Bokotatis en 1995, c'était Gbagbo Ouattara contre Bédié. Bédié venait d'aller de parvenir au pouvoir. Et puis après, c'est plutôt Ouattara et Bédié qui se sont alliés pour combattre Gbagbo jusqu'en 2010, effectivement, c'est leur alliance qui a permis aujourd'hui au RDR et RHDP aujourd'hui de parvenir au pouvoir. Ce n'aurait pas pu. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition pourra se réunir autour du candidat du PDCI pour battre le RHDP? C'est à voir, c'est peut-être à espérer.
Quel avenir du PDCI avec Tidiam Thiam à sa tête?
La première chose qu'on peut noter, c'est que Thiam a 60 ans. Ça veut dire qu'il y a eu un rajeunissement au niveau de ce parti-là. Deuxièmement, un monsieur comme Jean-Louis Dion n'a jamais gobé véritablement monsieur Thiam, au point que ces derniers jours, il a encore déclaré qu'il serait candidat à la convention du PDCI. Alors, est-ce que Thiam aura cette main qui permettra de rassembler tous les partisans, tous les nouveaux militants? C'est vrai qu'il a géré un certain nombre de structures internationales, mais est-ce qu'il saura vraiment rassembler tout le peuple du PDCI? C'est là que tout le monde attend justement.
Sylvain Namoya, fondateur du site d'information Côte d'Ivoire Today, joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le président russe Vladimir Poutine a effectué un voyage à Pékin jeudi et vendredi, marquant ainsi son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection en mars. Aux côtés de son homologue chinois Xi Jinping, le dirigeant du Kremlin a souligné l'importance de l'axe Pékin-Moscou comme un pilier de stabilité et de paix dans le monde. Pour analyser les implications de cette coopération et ses répercussions sur l'Afrique, Mamadou Oumfa a discuté avec Astrid Bryant-Rebois, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de la République centrafricaine et auteur de l'ouvrage « Relations Chine-Afrique ». Pensée de nouvelles perspectives publiées aux éditions L'Harmattan.
La Russie et la Chine sont aujourd'hui deux mastodontes au plan mondial qui contribuent à assurer l'équilibre géopolitique mondial. J'en veux à titre d'exemple qu'en ce qui concerne seulement les échanges commerciaux entre ces deux pays, on était à 240 milliards de dollars en 2023 et cela va grandissant. Quoi de mieux pour déterminer le niveau de santé relationnelle et coopérative entre deux États?
Ensemble, nous soutenons les principes de justice et un ordre démocratique mondial reflétant les réalités multipolaires et fondées sur la loi internationale, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Que vous inspirent ces propos?
Le président Vladimir Poutine se positionne en véritable contrepoids de la politique impérialiste et paternaliste d'un ordre occidental de plus en plus rejeté. Dans ce positionnement, il est évident que la justice et la démocratie dont on parle le président Vladimir Poutine occupent une place prééminente. La loi internationale ici n'est qu'une réaffirmation de sa volonté de faire du droit international un véritable socle sur lequel doivent être jugés tous les États sans aucune forme de préséance.
La Chine et la Russie cherchent à établir un ordre international, ce qui n'est pas nécessairement du goût de certains pays occidentaux. Quel doit être le positionnement de l'Afrique par rapport à cette question?
Le positionnement de l'Afrique doit nécessairement aller dans le sens de ses intérêts. Il s'avère que pour l'heure, le multilatéralisme qui repose sur des principes fondateurs tels que les consultations, l'inclusion et la solidarité et dont le fonctionnement est déterminé par des règles élaborées collectivement afin d'assurer une coopération durable et efficace. Et c'est lui qui sied le mieux à l'Afrique aujourd'hui. De ce point de vue, on peut comprendre pourquoi les États africains penchent de plus en plus pour le positionnement postulé par la Russie et la Chine.
On a clairement l'impression que certains pays africains ont fait le choix de pousser vers la sortie certains de leurs partenaires occidentaux traditionnels pour accueillir à bras ouverts la Russie et la Chine. N'est-ce pas une manière de remplacer certains maîtres par d'autres ?
L'Afrique ne veut plus d'un paternalisme ou d'une quelconque forme de tutelle aujourd'hui. Les États africains sont à la recherche de partenaires qui les respectent dans leur souveraineté et leur légitimité. Lassés d'être infantilisés, ils préfèrent se tourner vers des partenaires qui leur accordent cette respectabilité sans que cela ne veuille dire qu'ils embrassent un nouveau néocolonialisme.
Aristide Briand Rebos, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de la République centrafricaine et auteur de l'ouvrage Relations Chine-Afrique, Pensée de nouvelles perspectives, publié aux éditions L'Harmattan.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Le président Joe Biden et son adversaire républicain dans la course à la présidence, Donald Trump, se sont déjà engagés à participer à deux débats. Des règles strictes ont été mises en place pour garantir que leurs échanges restent aussi civilisés que possible. Cependant, l'impact de ces débats sur les électeurs indécis, notamment en raison de leur timing, reste incertain. Veronica Balderas-Inglesias fait le point sur la situation avec un récit de Ginny Niwa.
Débattre ou ne pas débattre, le président démocrate Joe Biden a donné une réponse directe le 15 mai.
Donald Trump a perdu deux débats contre moi en 2020. Et depuis, il ne s'est pas présenté à un débat. Maintenant, il agit comme s'il voulait débattre à nouveau avec moi. Eh bien, avec plaisir, mon cher.
Deux dates ont été fixées, le 27 juin et le 10 septembre. Donald Trump s'est montré inflexible à ce sujet lors d'un événement de campagne vendredi dans le Minnesota.
Je veux juste débattre avec ce type, vous savez. Je veux demander un test de dépistage de drogue aussi, d'ailleurs. Non, vraiment. Je ne veux pas qu'il arrive comme lors de l'État de l'Union, où il était complètement dans les vapes.
Il n'y a aucune preuve pour les affirmations de Trump. Le sénateur démocrate Chris Van Hollen a remis en question les tactiques de débat de l'ancien président lors d'une interview dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il veut créer une sorte d'atmosphère de cirque, mais le choix sera très clair. Je lui dis, vous avez Joe Biden, c'est le gars qui a grandi à Scranton, en Pennsylvanie. Il se bat pour la classe moyenne. Il croit à la dignité du travail et à la décence. Donald Trump, c'est l'agent du chaos.
L'ancien conseiller de la campagne Trump, Mark Lotter, également interviewé sur ABC, applaudit la présence prochaine des deux candidats sur scène.
Il s'agit d'un rappel en direct et Donald Trump monte sur scène deux ou trois fois par semaine et pontifie pendant 90 minutes. Joe Biden fait rarement une véritable interview. Ce sera un défi pour le président Biden.
Les débats se dérouleront sans public. Les présentateurs des journaux télévisés de CNN et ABC pourront couper les micros si les candidats tentent de s'interrompre les uns les autres. L'objectif des débats est d'aider les électeurs à se faire une opinion avant l'élection présidentielle de novembre, explique June Speakman, professeur de sciences politiques à l'université Roger Williams.
Trump est particulièrement doué pour se concentrer sur les aspects négatifs de son adversaire. Il est moins intéressé par la discussion des problèmes. Je pense que Biden essaiera de se concentrer sur les problèmes, sur ses propres performances économiques et moins sur les caractéristiques de Trump en tant que candidat.
Pour que les débats influencent les votes, le moment est important, a déclaré John Fortier, chercheur principal à l'American Enterprise Institute. Nous l'avons joint via Skype.
Lorsque les élections approchent et que de nombreux électeurs sont attentifs, ces débats sont très suivis et les gens les regardent pour voir s'ils sont indécis, s'ils veulent se décider à la dernière minute.
Les efforts des deux candidats pour convaincre se poursuivront cette semaine. Trump devrait se rendre dans le sud du Bronx le 23 mai. Biden sera en voyage officiel dans le New Hampshire le 21 mai.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro. Firmé Koyaweda a assuré la production et la réalisation. À la console, Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.
Je vous souhaite une excellente journée. De nos programmes, à la prochaine.